Nous nous attaquons donc à un monument. Un monument peut être impressionnant, intimidant, par sa taille, par sa beauté, par la force qu'il dégage, par le défi qu'il représente, qu'il a représenté. Ce texte, je ne sais pas si on peut mettre l'image qui suit. Voilà, juste ça. Ce texte a influencé le dessin de la croix huguenote. Vous savez, ce signe protestant d'origine française. Et on remarque qu'à ses 8 pointes, j'imagine que vous le saviez déjà, à ses 8 pointes, un bouton a été posé. Comme ce que l'on met sur un fleuret d'escrime pour le rendre inoffensif. Ces 8 boutons correspondent aux 8 béatitudes. Un monument, je vous dis. Un monument, c'est réputé, tout le monde le connaît ou pense le connaître. Ils en ont entendu parler, peut-être l'ont étudié à l'école, consulté la page Wikipédia. Ainsi, un monument est-il parfois victime de son succès? On le connaît tellement qu'on passe à côté. Celui-ci, ce texte monument, n'échappe pas à la règle. Il est aussi victime d'idées toutes faites, préconçues. Et ces idées, par leur simplicité qui sonne comme des évidences, ont la peau dure. Ce matin, nous allons essayer de revenir à l'essentiel, de retrouver ce qui fait que ces béatitudes sont si connues, si réputées, ont autant marqué l'histoire du christianisme. Tellement de commentaires ont été écrits, tellement d'érudits ont analysé ce texte, de héros de la foi, que je suis un peu dans mes petits souliers ce matin. C'est peu de le dire. Mais c'est avant tout un privilège d'avoir à méditer ces paroles de Jésus ce matin. C'est déjà un bonheur. Heureux sommes-nous ce matin. Ce qui me marque en premier, peut-être qu'on peut remettre le texte. Voilà. Ce qui me marque en premier, c'est le souffle de ce texte, la dynamique qui s'en dégage, les perspectives qu'il ouvre, le chemin d'espérance qu'il propose. Aussi sa simplicité, en tout cas en apparence, son côté direct, des phrases courtes, percutantes. C'est presque des punchlines. Ce texte me choque aussi. Il suscite en moi beaucoup de questions. Comment pleurer ou avoir faim et soif peut-il nous rendre heureux? Ou être persécuté? Et puis, qu'est-ce qu'être pur? Pauvre et miséricordieux, je vais y arriver. Miséricordieux, pardon. Jusqu'à quel point? Comment avoir un impact sur la paix dans notre monde? De quelle justice devons-nous avoir faim? Bon, vous comprenez bien que je n'aurai pas toutes les réponses ce matin. Il faudra rester avec certaines de nos interrogations. Ces béatitudes nous dérangent, et c'est déjà ça. Mais reprenons au début. Jésus laisse les foules pour monter sur la montagne. Là, le temps s'étire. Ce qui est dit en une phrase peut avoir duré des dizaines de minutes, peut-être même des heures. C'est un temps de silence. Personne ne parle, ni Jésus, ni les disciples. La foule n'est pas là. Quelques-uns ont peut-être suivi. Comme eux, à pas lents, je vous propose de les imaginer grimper pas après pas de cette marche lente et régulière qu'il faut adopter dans ces situations. C'est un moment de méditation avant de parler et d'écouter. Un moment pour nous déplacer, changer de point de vue, accepter un autre regard, laisser nos idées préconçues et en entendre de nouvelles. Jésus s'assoit. Notez qu'il ne reste pas debout comme un Moïse qui est seul sur la montagne à recevoir la loi de Dieu. Jésus n'est pas non plus à genoux, comme en prière. Il est assis, comme un sage, un maître qui enseigne. Ça en dit long sur ce qui va suivre. Jésus ne donne pas une loi. Ce ne sont pas des commandements. Ce n'est pas non plus une prière, une demande à Dieu. Jésus enseigne ses disciples. Et c'est d'abord à ceux qui ont choisi de le suivre qu'il parle. Mais rien n'empêche quelques curieux d'entendre ce qui est dit. Il enseigne comment vivre heureux. 8 béatitudes, 8 fois heureux. C'est l'idée première. Si l'on ne doit retenir qu'une intention aujourd'hui, c'est cette idée-là. Notez bien que l'expression est au présent. Ce qui est dit n'est pas pour demain, mais déjà pour aujourd'hui. Il n'y a aucunement dans ce texte l'idée de valoriser la souffrance. Il n'y a pas l'idée très répandue que la souffrance, la peine, nous sauve. Qu'en elle-même, la souffrance aurait une vertu. Il faut tordre le cou à cette idée que souffrir nous fait gagner quelque chose. Si vous regardez le texte qui précède le sermon sur la montagne, c'est le début du ministère de Jésus. C'est le Matthieu 4, par exemple, au verset 23-25. On peut lire « Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies, de toutes leurs infirmités. » On entendit parler de lui dans le pays de Syrie et on lui amena toutes les personnes qui souffraient cruellement de différents tourments et de diverses maladies, ceux qui étaient possédés par des démons, ainsi que les épileptiques et les paralysés. Et Jésus les guérit. Une foule de gens le suivit. Ils venaient de la Galilée, de la région de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et du territoire situé de l'autre côté du Jourdain. Jusque-là, la lecture. Quelqu'un qui guérit, qui soulage, qui accompagne, ne peut pas en même temps encourager à la souffrance. Ça n'aurait pas de sens. Il faut sortir cette idée absurde de nos têtes, même si c'est une idée qui a la peau dure. Et puis, sans aller très loin, après ce même texte, dans le Notre Père, il y a le « délivre-nous du mal ». Dans cette prière qui est donnée par Jésus, nous demandons la délivrance, certainement pas à souffrir. Alors certes, la souffrance existe dans nos vies, dans le monde, mais heureux sommes-nous car ce n'est pas elle qui vaincra. Ce texte est un message d'espérance, une promesse. La douleur, le mal n'aura pas le dernier mot. Notre idée, je voudrais insister maintenant sur le côté dynamique, les différentes dynamiques qui émanent des paroles de Jésus. Dans les années 70, un certain André Chouraki a commencé une traduction de la Bible qu'il a terminée en 1987. Et dans cette traduction, il a osé traduire le terme « heureux » par « en marche ». Alors, depuis, ça a été repris par d'autres, hein, mais il était le premier. « En marche ». Donc vous pouvez remplacer à chaque fois le « heureux » par « en marche les pauvres en esprit »,« en marche ceux qui pleurent », etc. Alors, même si cette traduction est certainement un peu trop restrictive, elle limite un peu peut-être l'intérêt de la chose, elle insiste, et je trouve ça très intéressant, sur le côté dynamique du texte. Le terme « béatitude » pourrait donner l'impression que le disciple devrait rester la bouche ouverte à attendre passivement de devenir pur, de devenir compatissant, que la justice arrive, que la paix soit faite. Ou même que ce disciple serait déjà arrivé à un stade de pureté, d'humilité, de compassion, qu'il serait placé dans une sorte d'extase, comme déjà au paradis. Je trouve que le terme « en marche » nous recolle au terrain et indique plusieurs dynamiques. Premièrement, le fait que nous sommes en chemin. Nous sommes en progression vers, que nous ne sommes pas déjà arrivés, mais que nous devons être en mouvement, que nous avons à cheminer. C'est un processus. Nous ne devons pas rester immobiles. Que nous ne devons pas non plus être tétanisés, arrêtés par la peur ou le côté inaccessible des objectifs proposés. Que là aussi, pas à pas, nous devons tendre vers. Notre état d'esprit doit être ouvert au changement, plus encore le désirer, en avoir faim et soif. Ce n'est pas non plus un schéma cloisonné qui nous est présenté. Il y aurait les purs, et puis à côté les humbles, et puis les compatissants, les faiseurs de paix, chacun bien sagement dans sa case, n'empiétant surtout pas sur celle du voisin. Ces qualités sont interdépendantes. Comment créer de la paix réelle sans le faire avec le souci d'être juste? Certains régimes politiques imposent la paix, mais le font en écrasant de façon autoritaire leur population, en ne leur reconnaissant aucun droit. Inversement, comment exercer la justice et la paix? Pardon, la justice si la paix n'est pas là. Comment exercer la justice si c'est le chaos? De même, rien n'oppose la pureté à l'humilité, la compassion à la douceur. Les moments de deuil où nous avons pleuré nous ont permis d'expérimenter la compassion de nos proches et de pouvoir mieux la pratiquer ensuite. Je dirais même que ces qualités se nourrissent elles-mêmes. Ce n'est pas comme des vases communicants, où quand l'un progresse, l'autre diminue. Non, dans ce cas-là, lorsque nous progressons d'un côté, c'est l'ensemble qui s'améliore. Et puis, très concrètement, nous sommes appelés à faire, à nous retrousser les manches. Ce texte doit ranimer en nous le désir d'une vie intense, ouverte. Nous sommes appelés à aimer, à nous battre pour la justice, à créer de la paix. Jésus ne nous demande pas de laisser les pauvres se débrouiller tout seuls, car ils sont bien heureux. Il nous demande de devenir pauvres en esprit, qu'avec humilité nous faisions reculer cette pauvreté. Il nous demande d'être capables d'empathie, de ressentir la pauvreté de l'autre et d'en être touchés, de se mettre à la place d'eux. C'est tout, sauf de l'indifférence. Ces béatitudes ne sont pas seulement une consolation, même si c'est déjà beaucoup. Elles nous montrent ce qui est primordial. Heureux vous qui pleurez, car vous vivez un moment essentiel. C'est difficile à entendre. Quand nous pleurons, nous n'avons qu'une envie, c'est d'être ailleurs, de nous extirper de cette tristesse qui nous en sert de crier « Délivre-nous du mal !» Quand j'ai pleuré, c'était sur mon péché. Quand je constatais mon indignité, quand je réalisais ce que Dieu avait fait pour moi comparé à mon peu de gratitude, j'ai pleuré à la perte d'êtres chers ou parce qu'ils sont partis vivre loin. J'ai pleuré parce que je les aimais, que je m'étais investi dans la relation avec eux, qu'ils comptaient pour moi. J'ai pleuré lorsque les projets qui me tenaient à cœur, sur lesquels j'avais beaucoup travaillé, sont tombés à l'eau. Chacun pourrait allonger la liste. Alors faudrait-il vivre sous cloche, se protéger pour ne plus souffrir, éviter les interactions avec tout être humain, se méfier de tout, se protéger de tout, ne rien tenter de nouveau, mais est-ce encore vivre? Plusieurs religions ont fait le même constat. Aimer, désirer, espérer génère de la souffrance. mais elles n'en tirent pas les mêmes conséquences. Si certaines de ces religions prônent l'extinction du désir, le Christ, au contraire, encourage à une vie ouverte, risquée, aimante, au risque, effectivement, de l'échec et des larmes. Alors, vous qui pleurez, bienheureux êtes-vous, car vous aimez, vous vous laissez aimer, vous espérez. Vous qui vous tourmentez pour des enjeux sociaux, vous qui travaillez à faire reculer la violence et la souffrance, bienheureux êtes-vous, car votre vie a du poids, votre vie a du sens. Et puis Jésus donne cet enseignement au tout début de son ministère. Et en fait, il présente ce qu'il va vivre et ce qu'il va incarner. Nous avons dans ce texte une description très complète du chemin que va suivre le Christ. L'esprit de pauvreté, il a vécu à la merci des hommes et de Dieu, sans une pierre pour reposer sa tête, sans garantie et sans réserve, dans un engagement total. Dans un engagement total pour faire approcher le royaume de Dieu. Cette dépendance seule au Père, cette humilité, lui a donné une grande liberté pour faire, sans contrainte, la volonté de Dieu et incarner pleinement le royaume. La douceur, vous savez qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais qu'il est venu pour les malades. Il sait la fragilité et la faiblesse de chacun. Ses paroles et ses actes sont là pour redresser, guérir, jamais enfoncer. La douceur n'empêche pas la force. On sait que Jésus a parfois agi avec véhémence pour faire réagir, pour créer du changement, une prise de conscience. De même que la pauvreté de Jésus se fondait sur sa confiance en Dieu, sa douceur n'est autre que l'expression de son amour pour l'autre. Dans ses interactions avec les femmes et les hommes, on voit que Jésus est à l'écoute. Il ne passe pas à côté. Il est capable d'entendre les demandes qui nous paraissent peut-être même futiles, celles de sa mère, par exemple, aux noces de Cana. Puis, quand il constate qu'il arrive trop tard et que Lazare est déjà au tombeau depuis 4 jours, il voit la tristesse de Marie et de ses proches. Le texte nous dit qu'il est troublé. Puis devant le tombeau, Jésus pleura. Le plus court verset de la Bible nous dit toute la simplicité, la solitude et la grande tristesse de Jésus. Il n'a rien d'un sage qui ne se laisse troubler par rien, qui ne se laisse toucher par rien. Que dire de sa faim et de sa soif de justice, sinon quels sont le moteur de son ministère ? Une justice pleinement en accord avec celle de Dieu. Encore une fois, une démarche qui commence par un accueil de l'autre, par une écoute, par une réhabilitation. Nous hésitons toujours entre l'application stricte de la règle et la miséricorde, entre condamnation et pardon. Jésus dit à la femme adultère, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. » C'est de la miséricorde en parole et en acte. Mais son ministère ne s'arrête pas là. Nous le savons, il est venu accomplir la volonté de son Père. Il est venu pour souffrir et mourir sur la croix. Et même sur la croix, il a demandé le pardon à ceux qui le torturaient. Il est l'instrument du Père pour cette grande œuvre de miséricorde dont nous sommes encore aujourd'hui les bénéficiaires, celle qui sauve les femmes et les hommes, qui réhabilite le pécheur. Quant à la pureté du cœur de Jésus, elle est le modèle, la perfection. Moi et le Père, nous sommes un. Cette parole, rapportée par Jean, bien qu'un peu mystérieuse, illustre une relation sans le nuage du péché, sans séparation, sans même de la distance. Ou plus loin, celui qui m'a vu a vu le Père, le Fils aussi pur que le Père. Artisan de paix. En Jésus, c'est Dieu lui-même qui se fait artisan de paix. Paix de Dieu avec les humains et entre les humains. C'est ce que chantent les anges aux bergers à Noël. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Mais plus encore, c'est sur la croix que se fait la réconciliation et donc la paix. Enfin, nous savons bien que nous sommes les disciples d'un Seigneur crucifié, persécuté et mis à mort à cause de la justice. Tout ce qu'il a enseigné, il l'a vécu jusqu'au bout. Il a prédit sa fin tragique, l'a annoncé et l'a enduré jusqu'à ce que tout soit accompli. Nous ne sommes pas le Christ, et ce n'est pas de l'humilité de reconnaître, mais nous pouvons méditer ces paroles. Les méditer, c'est méditer sur la personne qui les a prononcées, qui les a vécues et qui nous invite à les vivre. Alors, mes vœux pour cette année 2023, j'ai encore le droit, c'est que ces paroles de Jésus nous marquent, que nous les ayons en tête et au cœur, qu'au jour de la souffrance, nous puissions garder espoir, nous puissions avoir la grâce de regarder au-delà de ce qui nous arrive, d'avoir la conviction qu'après l'affliction, les pleurs, viendra la consolation, que ces paroles nous aident à tenir bon, que ces paroles soient aussi source d'inspiration pour nos actions, qu'elles nous gardent en mouvement sur le chemin, qu'elles nous accompagnent tout au long de nos projets personnels ou en Église, que nous soyons artisans de paix, que nous ayons faim et soif de justice. Les chantiers ne manquent pas. Que ces paroles nous incitent à imiter le Christ qui les a incarnés complètement, nous incitent à être à son écoute, à regarder sa vie, à nous laisser convaincre par lui, entraîner dans son sillage. Mes vœux pour cette année, que nous soyons 8 fois heureux. Amen.